Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Une Adrio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michaela Pernon, lauréate du prix de thèse Une Adrio 2023. Cet épisode va servir d'introduction à sa présentation lors du webinaire LURCO du 19 décembre, lors duquel elle nous parlera des différentes approches de l'évaluation, des dysarthries et des apraxies de la parole. Nous vous espérons nombreux lors de ces webinaires, et en attendant, bonne écoute! Bonjour Michaela, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour nous présenter donc ton sujet de thèse pour lequel tu as eu un prix, le prix Une Adrio. Donc, bravo encore une fois. Alors, est-ce que tu
merci.
Pourrais...
Merci, bonjour Fanny.
Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps donc, te présenter brièvement, quel était ton sujet et peut-être où est-ce que tu l'as fait?
Oui. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Une Adrio de me proposer d'effectuer cette interview, ce podcast, et puis ensuite le webinaire et aussi pour ce prix de thèse globalement l'ensemble de l'équipe. Alors, je suis actuellement orthophoniste, donc j'ai soutenu ma thèse, mon doctorat le 25 novembre 2022, donc c'est relativement récent. Et je suis aussi, et j'en parlerai peut-être par la suite, ingénieure de recherche au sein de l'hôpital où j'exerce. Donc ma thèse, elle a porté sur l'apport des approches d'évaluation donc perceptive, acoustique et cognitive des locuteurs avec une apraxie de la parole et une dysarthrie donc qui présentait des troubles moteurs acquis de la parole. Et cette thèse, je l'ai soutenue au laboratoire de phonétique et de phonologie qui fait partie de l'université Sorbonne Nouvelle et qui est une unité mixte de recherche. Donc c'est le CNRS et à la fois aussi l'université. Voilà.
Donc du coup, dans cette thèse, tu t'intéressais à l'évaluation de la parole des personnes avec une dyspraxie ou une apraxie de la parole.
Alors, je vais préciser, donc c'était plutôt dysarthrie. Donc on est vraiment sur les troubles acquis. Dysarthrie et apraxie de la parole. Donc vraiment les troubles moteurs, donc on est dans la production motrice de la parole. Donc ce sont ce qu'on a qualifié comme étant des troubles moteurs acquis de la parole. Certains parlent aussi de troubles neuromoteurs. Et là, l'important, c'est vraiment que c'est acquis hein, suite à une lésion cérébrale de différentes étiologies.
C'est ça, voilà. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur cette question, notamment sur les trois modalités d'évaluation que tu citais tout à l'heure?
Suite à l'obtention de mon diplôme, en fait, j'ai commencé par travailler à Paris en neurologie, à l'hôpital Lariboisière, où j'avais un poste à la fois sur la neurologie générale, UZNV, et aussi un mi-temps sur un centre de référence qui était un centre de référence pour une maladie rare, la maladie de Wilson. Et dans ce cadre-là, j'avais pour activité d'évaluer des patients qui étaient notamment dysarthriques et aussi dysphagiques. Et à ce moment-là, moi, j'avais eu que 2 heures de cours sur les dysarthries et les apraxies de la parole. Donc, j'étais un petit peu limitée pour mes évaluations. Donc, c'est comme ça que je me suis tout d'abord... j'ai souhaité réaliser un master recherche pour essayer d'approfondir un petit peu mes connaissances en phonétique clinique et en phonétique de façon plus générale, comprendre aussi les analyses acoustiques que je pouvais mener. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en master recherche dans le laboratoire où ensuite j'ai fait ma thèse. Donc ça, c'était au tout début vraiment de ma pratique d'orthophonie. Donc dans ce master recherche, mon sujet avait porté sur approche cognitive de la parole, puisque je m'interrogeais. En fait, j'avais envie de mieux comprendre, d'approfondir, et de voir qu'est-ce que je pouvais insérer dans le cadre de mes évaluations des patients. Mais ce que j'avais observé auprès de mes patients, donc ça part vraiment de la clinique, enfin, mes interrogations partaient vraiment de la clinique, c'était de... Pourquoi j'avais certains patients qui finalement ne pouvaient pas parler et faire autre chose en même temps, par exemple marcher. Et j'ai voulu creuser cet aspect-là. Et à un moment donné, il y a eu ce projet dont tu as peut-être entendu parler, qui est Monpage, qui était la création d'un outil d'évaluation normée, validée pour une population francophone pour ces troubles dysarthrie, apraxie de la parole, avec des collaborations avec le Québec, la France, la Suisse et la Belgique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi l'équipe de Genève qui avait commencé aussi à réfléchir sur des des modules d'évaluation, mais aussi sur, qui avaient des projets en parallèle sur la double tâche. Là, je me suis dit, j'avais l'intention aussi de faire évoluer cette réflexion sur la double tâche. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça peut être vraiment une opportunité de pouvoir réfléchir à plusieurs sur ce que moi j'ai déjà fait, ce qu'eux sont en train de faire. Donc, j'ai commencé ma thèse comme ça, en partant vraiment sur la double tâche. Et en parallèle, donc, j'avais obtenu un contrat en assistanat de recherche qui portait sur un autre projet pour lequel il y avait eu un financement qui était Mospidi, qui était la suite en fait de cette réflexion qui était de caractériser ces étapes de production motrice de la parole, de mieux les comprendre. Finalement, en partant de la double tâche, je me suis dit, mais finalement, ma réflexion au cours de ces années de thèse, elle a porté à la fois sur cette réflexion sur l'approche cognitive à travers la double tâche, donc de cette demande cognitive motrice de la parole. J'ai mené une étude pour le projet Mospidi qui portait sur la perception, la classification auditivo-perceptive des troubles moteurs acquis de la parole par les orthophonistes. Donc l'idée, c'était de voir comment les orthophonistes arrivaient à poser un diagnostic à l'écoute de corpus de locuteurs dysarthriques ou avec une apraxie de la parole. Et parallèlement, mon page, on avait cette interrogation, puisqu'on était toujours en train de travailler sur la validation, des marqueurs finalement qu'on pouvait retenir à travers toutes les tâches de parole qu'on avait élaborées. J'avais aussi l'idée de finalement essayer de voir, de creuser quels étaient les marqueurs acoustiques qui pouvaient peut-être préciser le diagnostic ou contribuer au diagnostic, ou bien faciliter aussi la classification des patients et la caractérisation des troubles pour mieux orienter après la thérapie. Donc finalement, j'avais ces analyses acoustiques-là, cette analyse perceptive et ces données de double tâche que j'avais menées au départ sur des patients, puis après, dans le cas de ma thèse, sur des sujets neurotypiques pour essayer de mieux comprendre les processus.
D'accord.
Je ne sais pas si, c'était clair.
Donc en gros, si je résume, il y avait donc cette analyse vraiment perspective globale des orthophonistes qui
perceptive globale.
Il y avait donc l'outil dont tu parles. Mon sage, donc excuse-moi, je
mon page, mon page, page
voilà,
mon page.
Donc, oui. L'analyse
mon page pour. Alors acoustique et perceptive. J'ai pris le corpus de certains des patients qui avaient été soumis aux orthophonistes dans l'expérience perceptive. Et j'étais regardée si finalement, à travers le score global de mon page, l'analyse mon page, acoustique et aussi, parce qu'il y a des tâches perceptives qui sont l'intelligibilité et l'analyse de l'articulation à travers les pseudomots, on arrivait à finalement diagnostiquer plus de patients ou pas. Donc ça, c'était une des questions. Quels étaient les patients qui avaient été mal diagnostiqués? Quel était leur profil? Est-ce qu'il y avait un profil aussi par sous-type de trouble moteur acquis de la parole? Et dans les résultats qu'on a obtenus, c'est que finalement, les deux seraient, dans les résultats de cette étude comparative, finalement, sur les sujets analysés, les deux seraient complémentaires. Finalement, les orthophonistes sont quand même plutôt... les experts sont plutôt bons, on va dire. La praxie de la parole, ça, on s'y attendait un petit peu. Ils ont plus de difficultés parce qu'il y a des signes associés avec les dysarthries, aussi parce qu'il n'y a pas un consensus international pour le moment sur les signes cliniques et parce que souvent ces deux troubles sont associés aussi. Donc ça, c'est la difficulté. Et finalement, cette analyse perceptive-là, elle serait complémentaire d'une analyse acoustique. Et l'acoustique apporte autre chose à travers des tâches spécifiques comme les diadochocinésies, par exemple, ou aussi peut-être la voix. Et là, c'est des choses encore creusées, je pense, à l'avenir pour le développement de l'outil MonPage, pour voir pour ces troubles-là, quelles seraient les spécificités à travers les marqueurs retenus, parce qu'il y a aussi la question des marqueurs, quels marqueurs on retient ou pas. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, donc moi, dans ma comparaison, finalement, MonPage permettait de diagnostiquer un locuteur en plus par rapport à ce que les orthophonistes avaient fait dans l'analyse perceptive. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut aussi, à travers cette analyse perceptive globale, finalement, on avait demandé aux orthophonistes sur quels critères perceptifs elles s'étaient appuyées, elles s'étaient appuyées pour diagnostiquer. Et en moyenne, elles avaient retenu 3 à 4 critères perceptifs, comme par exemple la résonance, par exemple l'intelligibilité même de la parole, ou encore la qualité de la voix, etc. Et pour MonPage, on peut aussi... Finalement, quand on prend les résultats des marqueurs et des pathologiques par rapport au score global, se baser aussi sur 3 marqueurs. Donc ça, c'est intéressant, cette comparaison, ce parallèle entre les deux.
Excellent. Bon, enfin, tu nous en diras plus de toute façon pendant le webinaire. Mais juste petite question, donc Monpage, cet outil, est-ce qu'il est disponible déjà pour les orthophonistes ? Oui, il est disponible.
Oui, il est disponible. Alors, c'était l'idée, hein, c'est qu'il soit libre d'accès, téléchargeable. Voilà, il est gratuit, entre guillemets. C'est un logiciel qu'on peut télécharger depuis le site du laboratoire de phonétique et de phonologie. Donc, il faut de Paris, de la Sorbonne Nouvelle. Donc, il faut saisir... mon page sur moteur de recherche Google, LPP, on tombe sur la page du labo et on tombe sur la page de mon page. Et donc, sur cette page-là, il y a plusieurs onglets. Donc, un onglet avec des vidéos pour l'installation, les manuels d'installation et de passation et de cotation. Il y a deux applications, une application passation, une application cotation. Et puis, le matériel nécessaire pour la passation qui est aussi fourni. Voilà.
D'accord, excellent. Bon, bah, bravo pour tout ce travail. Et dernière petite question peut-être. Quelles sont les perspectives maintenant ? Toi, est-ce que tu es en clinique ou en recherche ? Est-ce que tu as trouvé une façon de lier les deux ?
Alors actuellement, moi, j'ai la chance d'avoir pu créer un poste en fait à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, qui se situe dans le 19e arrondissement à Paris, qui est un poste mixte. Donc, j'ai à la fois une activité clinique d'orthophoniste. Donc, j'ai pu garder cette activité-là, où je travaille à la fois sur l'unité mouvements anormaux, Parkinson. Et l'unité maladie de Wilson, centre de référence, où j'avais travaillé auparavant, donc j'ai repris ce poste. L'unité était auparavant à la Bériboisière, a déménagé à la Fondation Rothschild, à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, et donc j'ai repris ce poste-là. Et donc j'ai la chance d'avoir cette activité clinique, et en parallèle, avec le statut d'ingénieur de recherche, donc je suis rattachée au service de recherche clinique de l'hôpital, qui est un gros service où travaillent à peu près 80 personnes actuellement. Et dans ce cadre-là, donc je suis amenée à pouvoir travailler sur des projets de recherche déjà en cours au sein de l'hôpital, sur des problématiques qui sont plutôt généralement les miennes, hein, de mouvements anormaux, de fluence de la parole aussi, j'en ai pas parlé, de double tâche, etc. Donc, mouvements anormaux et paroles, et donc pouvoir travailler et collaborer, aussi monter des projets et aussi en collaboration avec les orthophonistes de l'hôpital, essayer de valoriser la recherche en orthophonie sur la structure. Donc c'est assez riche. Après, on va voir comment j'arriverai à mener ces projets, ce que j'arriverai à faire. Puis voilà, donc j'en suis là en ce moment.
Bon, bah, félicitations en tout cas parce que je sais que c'est pas facile de pouvoir concilier les deux, que parfois certains orthophonistes se trouvent un peu dans des situations où ils doivent plus ou moins choisir l'un ou l'autre. Et donc bravo pour l'ouverture de ce poste.
Merci. Merci.
Merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup Fanny
et
aussi.
Nous tarde le webinaire pour en savoir plus.